Vous écoutez
RMC.
Il est 6h, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour à tous.
Après la canicule, les incendies frappent le sud de la France.
Et on sera sur place dans l'Aude où des habitants ont dû être évacués en urgence. Pas de campagne présidentielle sous bracelet électronique. Marine Le Pen s'exprimait hier sur sa possible condamnation la semaine prochaine. Et puis la Coupe du Monde de foot, qualification in extremis de la Belgique contre le Sénégal. Ça passe aussi en 8e pour l'Angleterre et les États-Unis.
6 départements en vigilance incendie.
Des Pyrénées-Orientales au Vaucluse, en passant par l'Aude. L'Aude, où plus de 150 personnes ont été évacuées hier dans les communes de Pouzolles, Minervois et Maillac, après que le feu a parcouru 600 hectares. Des habitants rencontrés par l'envoyé spécial de RMC sur place, Philippine Boulet.
Romain a vu les flammes dévaler la colline et s'arrêter à quelques dizaines de mètres seulement de chez lui.
Vu que c'est sec, ça part direct comme une torche, quoi. Après, j'avais un gros tas de bois sur le côté. Là, il y a tout qui a pris feu en 30 secondes.
Il évacue alors sa maison avec sa famille et ses animaux.
Là, quand c'est vraiment en face de chez toi, que t'as des flammes de 3 mètres, ouais, là, t'as peur. Ouais. On est parti vite. Les affaires, tant pis, c'est pas grave.
Daniel aussi a dû quitter sa maison. Lui est né ici. À 78 ans, c'est la première fois qu'il voit la garrigue dévorée par les flammes.
Malheureusement, quand on la voit partir en fumée, je vous dis, les pleurs sont là, on ne peut pas les supporter, quoi. On la parcourt toute l'année. Il y a la période de chasse, il y a la période où on va ramasser des asperges. Les promenades, les enfants adorent aller dans la garrigue.
Anaïs aussi a dû quitter précipitamment son lotissement.
Ça nous met en colère, en fait.
L'origine de l'incendie reste inconnue à ce stade, mais elle redoute une imprudence humaine.
Ils disent, j'ai seulement jeté mon mégot et au final, toute la colline a brûlé. Nous, on a été évacués en urgence, on a failli perdre nos maisons aussi. Pour nous, c'est pas des blagues, en fait.
Après plusieurs heures, tous ont finalement pu regagner leur logement pour la nuit.
Des feux aussi dans l'Hérault, 200 hectares brûlés au nord de Narbonne et deux incendies aussi au nord de Marseille à Rognac et Lançon-Provence. Marseille où le Premier ministre Sébastien Lecornu se rend cet après-midi pour présider une cellule interministérielle de crise sur la canicule.
Canicule qui justement, Géraldine nous le disait, se calme enfin.
Et à 6h ce matin, il n'y a plus aucun département en vigilance orange. Le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse sont rétrogradés en jaune. Mais vous le savez, on se prépare déjà à une nouvelle vague de chaleur attendue dès ce week-end dans le sud. Vague qui inquiète particulièrement les éleveurs de volailles. Près de 3 millions d'animaux sont morts la semaine dernière à cause de la chaleur. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a donc annoncé hier le déblocage de prêts de trésorerie pour que les éleveurs adaptent leurs bâtiments. C'est ce que va faire Erwan Etriard, éleveur en Ille-et-Vilaine. Il a perdu 1000 poules la semaine passée.
Il ne faut pas faire l'autruche, hein. Il va falloir trouver des solutions. Clairement, on ne va pas laisser nos animaux mourir comme ça. Ça fait quand même mal au cœur de voir des animaux en souffrance. Nous, en tant qu'agriculteurs, on ne travaille pas pour ça. Et économiquement, c'est pas gérable. Donc, en fait, là, aujourd'hui, on est en statique. C'est le vent qui passe dans le bâtiment qui refroidit. Mais là, comme il n'y a pas de vent et qu'il y a des grosses chaleurs, au final, ça ne va pas. Là, en fait, on va repeindre la toiture en blanc de façon à vraiment faire en sorte que la toiture n'absorbe pas la chaleur. On va tout réisoler avec de la ventilation. On est quasiment entre 150 et 250 000 euros. Je pense que ce serait beaucoup plus judicieux d'avoir des prêts à taux vraiment réduit que des prêts trésoriers à court terme.
Marine Le Pen exclut une campagne sous bracelet électronique la semaine prochaine, le 7 juillet. La Cour d'appel de Paris tranchera et dira si Marine Le Pen pourra se présenter une quatrième fois à l'élection présidentielle. Pour l'instant, elle est inéligible, condamnée en première instance dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. La chef de file des députés du Rassemblement National s'exprimait hier sur LCI.
Non, j'ai pas peur. La peur n'a pas sa place. On peut avoir un sentiment d'injustice, d'être privé d'un combat qui a été et qui reste le combat de ma vie. Mais si je peux être candidate, je serai candidate. Pour peu que je puisse faire campagne. Car s'il s'agit de m'autoriser à être candidate, mais de m'empêcher en réalité de mener une campagne tout à fait librement, vous entendez bien que ce ne sera pas possible.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec un bracelet?
Bien sûr.
Ouais.
Je ne peux pas dépendre d'un magistrat pour m'autoriser à aller faire un meeting ou aller sur un marché à Hénabon, vous voyez.
Il est 6h05 et c'est un chiffre RMC que l'on vous dévoile ce matin à la veille des vacances d'été. Une période qui concentre plus d'un quart des accidents de la route. Et vous le savez, les plus vulnérables sur les routes, ce sont les jeunes, les 18-24 ans. Leur taux de mortalité est deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Eh bien, ça pèse sur les parents des jeunes conducteurs. 8 parents sur 10 redoutent un accident et estiment que leurs enfants ont un comportement dangereux sur la route. C'est une étude Opinionway pour Direct Assurance des parents rencontrés par Lou Garnier.
Presque 2 ans que le fils de Pauline a son permis et pourtant...
Toujours peur. C'est peut-être l'anxiété de la maman.
À 19 ans, son fils conduit peu, alors le savoir au volant est une source de stress, notamment quand il conduit la nuit.
Tu m'envoies un message quand t'es bien arrivé. On peut oublier d'envoyer le message et du coup, c'est l'angoisse absolue et on n'ose pas appeler parce qu'on se dit s'il est sur la route et voilà. Je n'arrivais pas à m'endormir tant qu'il n'était pas rentré.
Selon l'étude, ils sont 8 parents sur 10 à estimer que leur enfant, jeune conducteur, adopte un comportement dangereux au volant.
C'est la vitesse, c'est l'alcool au volant, c'est le téléphone, la fatigue, il faut savoir s'arrêter toutes les 2 heures. 90% des accidents sont évitables.
Caroline est la maman d'une jeune femme de 23 ans.
On sait très bien que l'expertise vient avec l'expérience. Donc à l'âge de 23 ans, on ne sait pas encore bien manœuvrer ou en tout cas avoir les bons réflexes.
Moins de réflexes et donc un temps de réaction plus lent. Gaëlle a 20 ans, elle reconnaît quelques erreurs d'inattention qui inquiètent parfois ses parents.
Ils me disent de faire attention prioritaire à droite et si à l'autoroute, genre pas dépasser les limitations vu qu'on est en période probatoire et que ce n'est pas les mêmes. Donc pas 130.
Par peur des accidents, elle évite de conduire la nuit et lorsqu'il pleut.
Vous avez entendu les témoignages notamment des parents, si vous êtes parents, si vous avez des enfants qui ont 18, 20 ans, qui prennent la voiture là pour aller en vacances, appelez-nous ce matin, faites le 32-16, laissez vos messages sur WhatsApp 06-12-424-424. Est-ce que vous êtes inquiet particulièrement l'été quand vous les voyez partir en vacances avec leurs copains en voiture? Est-ce que vous dites tout là, j'ai peur qu'il arrive une catastrophe? Est-ce que vous êtes plutôt serein? Comment vous faites aussi pour essayer de faire en sorte qu'ils se comportent bien, vos enfants jeunes conducteurs sur la route? Et puis si vous êtes jeune conducteur vous-même, est-ce que vous comprenez finalement cette inquiétude des parents?
Vous n'appelez pas au volant, hein, par contre.
Non, vous vous garez, vous nous appelez et vous nous dites si ça vous agace finalement l'inquiétude des parents permanente là. Vous nous appelez quand vous arrivez, etc. Vous nous le dites au 32-16. Vous laissez vos messages sur WhatsApp 06-12-424-424.
Et 3 nouvelles équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Cette nuit, les États-Unis ont battu la Bosnie-Herzégovine 2-0. Quelques heures plus tôt, l'Angleterre a vaincu la République démocratique du Congo 2-1, longtemps menée et finalement délivrée par un doublé de Harry Kane. Scénario similaire pour la Belgique, menée 2-0 par le Sénégal à quelques minutes de la fin du match et qui a finalement égalisé Nicolas Pelletier pour vaincre les Lions 3-2 en prolongation.
Tout sourire après ce scénario à rebondissement, le sélectionneur belge Rudy Garcia résume la rencontre de son équipe.
On avait envie de retourner la table et on l'a fait. Comme deux boxeurs, les équipes ont répondu coup pour coup.
Pourtant, jusqu'à la 86e minute, la Belgique semblait dans les cordes, totalement dominée par le Sénégal. Dès le coup de sifflet final, le sélectionneur des Diables Rouges donnait une leçon tactique à son adversaire.
On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui, à mon avis, une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 2-1, le match a changé d'âme.
Le Sénégal avait retrouvé un visage séduisant, très proche de celui de la Coupe d'Afrique en début d'année, avant de s'écrouler en fin de match. Le sélectionneur Paptiou accuse le coup.
C'est cruel cette défaite, mais maintenant le match ne dure pas que sur 80-85 minutes. Malheureusement, maintenant il faut féliciter l'équipe de la Belgique qui est passée et nous continuer à travailler.
Éliminés en 8e de finale en 2022, les Belges tenteront de faire mieux face aux États-Unis lundi soir à Seattle.
Et reprise des matchs ce soir à partir de 21h avec Espagne-Autriche, à suivre bien sûr sur RMC.
RMC radio officielle de cette Coupe du Monde. Merci beaucoup Solène Gardré, c'était le journal de 6h et on part tout de suite au 32-16 accueillir Christian.
Bonjour Christian.
Bonjour Martin, bonjour Élise.
Vous nous appelez depuis Toulon, Christian. On parle ce matin des vacances. Caniculaire, évidemment, Géraldine nous le disait, à partir du dimanche, ça va grimper à nouveau. On a eu déjà 2 périodes de canicule. Est-ce que ça change un petit peu vos plans pour les vacances, Christian?
Légèrement, parce que j'irai pas voir à Paris mes musées préférés, j'irai pas voir votre canicule non plus, parce que ayant vécu 26 ans à Paris, je sais ce que c'est que supporter la chaleur à Paris, c'est pas trop possible. Je préfère encore rester là, sous les pins, il y a la mer. il y a la piscine, voilà. Donc, je
après,
sais
Christian,
que
là, la prochaine vague de chaleur, elle va beaucoup toucher le sud de la France, hein, et notamment le Var.
Oui,
hein.
Oui, mais on a quand même un petit peu d'air avec les Mistral qui est là pour balayer les grosses chaleurs. Bon, de toute façon, on est un petit peu habitué aussi. Moi, ce que je dis, c'est que cette chaleur ici, cette année, c'est un peu comme si le mois d'août était arrivé en avance. Donc, on s'habitue, on change.
Quasiment 3 mois d'avance, quand même.
Oui, 3 mois, si vous voulez, 4. Alors, de toute façon, on est parti pour jusqu'au 15 octobre à peu près. Le 15 octobre, c'est à peu près la date à laquelle le froid revient un petit peu dans le sud, dans tous les cas. Mais il y a un truc que je supporterais pas de faire, c'est-à-dire de prendre un TGV qui se bloque sur les voies. Ça, c'est moi qui suis en plus un peu claustro. Donc, je ne vais pas prendre le risque du tout.
Oui,
donc,
c'est vrai que ça peut faire partie aussi des adaptations avec tous les problèmes de train. On a vu récemment avec les périodes de canicule, peut-être que les gens décident de prendre davantage la voiture. Vous nous le dites, tiens, au 32-16. Et restez bien à l'écoute, puisqu'on accueille tout de suite Marion Gauthier. Je remercie Christian qui a composé le 32-16. Bonjour Marion.
Bonjour.
Marion, donc on parle avec vous des Français qui craignent cette canicule cet été et qui, pour passer de bonnes vacances, vont tenter de s'adapter, tant bien que mal.
Oui, ils cherchent le frais, ils visent le nord plutôt que le sud, la galette saucisse plutôt que le magret de canard. C'est pour toi, Martin.
On valide le magret de canard, moi je valide. A tout de suite sur RMC, RMC Story.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Merci de vous réveiller avec RMC, il est 6h15.
RMC, le choix de la rédaction.
Et le choix de la rédaction ce matin, c'est avec Marion Gauthier. Bonjour Marion.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors ce matin, vous allez nous parler des Français qui s'adaptent après l'alerte rouge canicule de la semaine dernière et les fortes chaleurs encore annoncées dès ce week-end. Certains Français changent leur plan de vacances.
Oui, ce qu'ils peuvent sur le site de réservation booking.com, la part des recherches de logements avec climatisation a triplé, avec piscine extérieure, c'est plus 85% depuis la semaine dernière. Les destinations changent aussi. Les recherches pour Dieppe et Trouville-sur-Mer ont plus que doublé. Même si on le rappelle, la canicule a aussi touché la Bretagne. Christelle estime qu'elle y prend moins de risques que dans le sud-ouest où elle comptait partir en août. La quinquagénaire
reste... J'ai vraiment le sentiment d'étouffer.
La quinquagénaire, pardon, reste...
Allez-y Marion.
La quinquagénaire reste marquée par les chaleurs de ce début d'été.
J'ai vraiment le sentiment d'étouffer. Je marchais le soir tard, mais il y a eu des soirs où c'était même pas possible de marcher, tellement à 22 heures, on avait l'impression d'être dans une cocotte minute. J'ai dit non, c'est pas possible. Je prends la Bretagne. Hein. Déjà, on sera en bordure d'eau. L'air est plus rafraîchissant. Je supporterai pas d'être en bas, quoi.
Important de le préciser également, les réservations dans ces régions refuges sont souvent moins chères. Christelle y gagne au change 1000 euros pour 15 jours dans un appartement breton contre plus de 1500 plus bas, dit-elle, dans le sud-ouest.
Marion, si plus de Français vont au nord, il y aura moins de monde plus bas dans le sud.
C'est plutôt que les réservations dans le sud progressent moins vite. Le littoral reste une destination privilégiée, évidemment. Un peu plus d'inquiétude, en revanche, dans les terres, en Dordogne. David Ross y est responsable de l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie-restauration.
Pour le moment, les réservations, on a des taux d'occupation qui sont environ en baisse de 5%. Après, on a pas mal de réservations qui arrivent un peu en dernière minute. Ça va être très conjoncturel, ça va être en fonction de ce qui se passe autour d'eux. Et forcément, ils regardent aussi par rapport au climat. On sait qu'il y a des touristes qui vont privilégier des destinations un petit peu plus fraîches. Ça va pas en s'améliorant, hein.
Alors Marion, s'adapter à la chaleur, ça va plus loin que changer sa destination. Hein.
Oui, c'est adapter son logement, voire en changer. Après des nuits à se réveiller toutes les heures, à se doucher trois fois. Après des jours à 34 degrés dans son appartement du centre-ville de Nantes, Caroline a cherché une nouvelle location.
Et on a trouvé en une semaine. Pas d'exposition sud, pas de grande baie vitrée, alors que c'est vrai qu'avant, c'était un peu un des critères de recherche. L'étage, en effet, parce que là, on est au dernier, donc sous les combles. Que là, on va être au deuxième étage sur 9, il me semble. On n'emménage que dans un mois, donc on appréhende quand même un petit peu la nouvelle vague qui va arriver. On a juste trop hâte et on a l'impression que ça va un peu changer notre vie.
Le climat qui pèse de plus en plus sur les décisions. Dans une étude Orpi, 77% des répondants disent prendre en compte le risque climatique avant d'acheter un bien immobilier. C'est 80% dans le sud-est ou dans les villes littorales exposées au risque submersion, par exemple.
Mais les changements de région, ça va prendre du temps?
Oui, c'est ce que m'explique la présidente de PAP particulier à particulier. Pour elle, c'est la génération des 50-60 ans qui va être déterminante, ceux qui réfléchissent au lieu de leur retraite.
On doit se projeter
longtemps en avance, bah là, pour le coup, on sait que les canicules vont empirer. Et c'est vrai qu'historiquement, il y en a énormément qui allaient passer leur retraite sur la Côte d'Azur. Il est possible que là, la génération qui a actuellement 50 à 60 ans fasse un choix différent. Ils se disent, quand je serai retraité, en plus, je serai voilà potentiellement âgé, donc sensible à la chaleur. Et donc, la Côte d'Azur, ça va poser problème. Et peut-être qu'ils feront une partie d'entre eux plus importante qu'avant, choisira des régions plus tempérées.
Et pour le moment, le sud est plus exposé, mais aussi mieux équipé pour résister aux fortes chaleurs.
Venez nous dire ce matin sur RMC, merci beaucoup Marion Gauthier, venez nous dire au 32-16, comment vous vous adaptez vous pendant ces vacances? Est-ce que les fortes températures, la canicule là qu'on a vécue en mai, la semaine dernière, et la canicule qui arrive dès ce week-end, ça vous fait changer un petit peu vos plans pour cet été? Tiens, je vous lis le message de Luc. Luc qui fait visiblement partie de ceux qui veulent la clim cet été dans leur lieu de vacances. Réservation dans le Var avec clim obligatoire, 3 semaines au frais, nous écrit Luc, qui fait donc partie, c'est quoi, c'est x3 le nombre de réservations, oui. Le nombre de recherches pour des logements avec la clim. Appelez-nous, dites-nous comment vous adaptez, 3216 et 0612 424 424 pour vos messages WhatsApp, 6h19.
Et Miley Cyrus rejoint le club très fermé des chanteurs et chanteuses qui ont une Barbie à leur effigie. Un rêve devenu réalité, dit celle qui est aussi actrice. La poupée a été dévoilée hier par Mattel, son créateur. Une Barbie inspirée du clip de la chanson Golden Burning Sun de Miley Cyrus. Alors c'est une Barbie au look rebelle, hein, tout de simili-cuir noir vêtue. Elle a un micro aussi, puisque c'était important pour la chanteuse, qui explique avoir passé du temps à s'attacher à chaque détail, et aussi parce que sa musique, dit-elle, c'est sa raison d'être. I came in like a Alors avant Miley Cyrus, Kylie Minogue, il y avait des Barbie pour Kylie Minogue, Shania Twain et même Elton John, qui a sa propre poupée, lui aussi. Pour celle de Miley, il faudra débourser quasiment 78 euros pour vous la procurer.
On va attendre un peu, peut-être que bientôt d'occasion on en aura des Miley Cyrus.
C'est vrai.
Donc, faut faire quoi pour avoir sa propre poupée? On sait pas.
Faut écrire à Mattel. Je sais pas s'il nous écoute, hein, mais je crois que Martin est intéressé pour avoir sa poupée.
Pour tout le monde, avoir tout le monde, toutes les poupées de la rédaction, ça pourrait être marrant.
C'est étrange.
Oui, très très bizarre. 6h21 sur RMC Story. Élise, dans un instant, on vous offre la consultation gratuite évidemment, mais juste après, les rappels des trois grands titres de l'actu.
Et les premiers incendies qui frappent le sud de la France, avec deux feux qui ne sont toujours pas fixés au nord de Marseille et plusieurs centaines d'hectares ravagés dans l'Aude et dans l'Hérault. C'est dans ce contexte que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, tiendra une cellule de crise interministérielle à Marseille cette fois, en vue aussi du nouvel épisode de forte chaleur prévu par Météo France ce week-end. Et puis les derniers résultats du mondial, avec trois qualifiés pour les huitièmes de finale, les États-Unis, la Belgique et l'Angleterre. Belgique et Angleterre qui se sont fait peur quand même.
6h21 sur RMC, RMC Story. Notre docteur est là dans le morning. Bonjour Royal Gage.
Bonjour.
La consultation gratuite dans un instant.
En pleine période de noyade, vos idées reçues peuvent vous coûter la vie.
À tout de suite sur RMC, RMC Story.
5h-7h.
5-7, le morning RMC.
Il est 6h24 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous, on va voir le docteur.
RMC, consultation gratuite.
Docteur Aurel Gage, évidemment, qui est avec nous comme tous les matins dans le morning. Docteur, c'est l'été, c'est la saison des baignades, malheureusement aussi, évidemment, celle des noyades. On l'a vécu la semaine dernière, on l'a vécu aussi en 2025, près de 1400 noyades en France. 60% concernés des adultes, plus d'un quart des enfants de moins de 6 ans. Est-ce qu'il y a des mécanismes, docteur, qui favorisent les noyades? Ne pas savoir nager, j'imagine.
Ne pas savoir nager, d'abord, il y a tout ce qui est extrinsèque, mais qui est connu. Ça veut dire tout ce qui revient par rapport au milieu. Est-ce que le milieu, il est dur? Est-ce qu'il n'y a pas de surveillance? Est-ce que vous avez pris de l'alcool ou des drogues? Mais là, je voulais qu'on s'intéresse à ce qui est intrinsèque, ce qui peut arriver à tout le monde. Première chose, il y a les crises convulsives. N'importe qui peut convulser. Évidemment, il y a les épileptiques connus. Et si vous faites ça alors que vous n'êtes pas surveillé dans l'eau, bien, vous avez un risque de vous noyer. La seconde chose, c'est tout ce qui va être musculaire. Par exemple, la crampe qui peut guetter n'importe qui, surtout quand vous êtes mal hydraté, mal entraîné, vous êtes au large, vous êtes tout seul et vous vous noyez. Il y a aussi le plongeon, malheureusement, le plongeon mal fait, traumatisme. Et avec le traumatisme, généralement, hop, on coule à pic. Et puis, il va y avoir la troisième chose dont vous avez déjà tous entendu parler, c'est les origines cardiovasculaires. Alors, cardio, ça va être des gens qui ont des troubles du rythme. Par exemple, en allant dans l'eau, ça peut être des sujets jeunes. Eh bien, le changement de température peut un peu éprouver le cœur et le cœur, au lieu de battre normalement avec un rythme qui est connu, eh ben, il va se mettre à battre n'importe comment. Ça va mal vasculariser le cerveau. Et donc, vous allez faire un malaise. Et puis, un autre mécanisme qui est très connu, celui-là, c'est au niveau des vaisseaux. Ça va être l'hydrocution. L'hydrocution, qu'est-ce que c'est? C'est, vous allez tout simplement, à cause du changement de température, avoir un changement au niveau de la taille des vaisseaux. Et le problème, c'est que vous changez la taille des vaisseaux, eh bien, vous changez la perfusion cérébrale, donc la malaise, et on se noie. Donc, pour rappel, l'hydrocution, ça tue pas directement. Ce qui tue, c'est la perte de connaissance à l'hydrocution qui va être temporaire, mais vous aurez le temps de vous noyer.
Alors, on entend souvent que les risques de noyade sont plus élevés quand on se baigne après avoir bu ou mangé. C'est vrai, ça?
Alors, non, ça, c'est une légende. Ça fait partie des deux grosses légendes de la noyade. La première, c'est vous pouvez vraiment manger, vous pouvez même vous faire une raclette, ce que vous voulez, même si bon, je connais pas beaucoup de gens qui prennent des raclettes en été.
Il n'y a pas de saison pour la raclette.
Bah, vous pouvez. C'est une légende. Il n'y a aucune raison de se noyer après avoir mangé. Et la seconde légende, c'est la noyade sèche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Non. Alors, cette expression qui fait peur aux parents, c'est un enfant qui boit de l'eau et qui, sans s'être noyé initialement, eh bien, 8 jours après, décède brutalement d'une noyade. Ça n'existe pas, la noyade sèche. Ça n'existe pas. C'est important que les parents qui nous écoutent le sachent. C'est même un mot qui est banni en médecine. La chose qui peut arriver, c'est qu'un enfant ingurgite un peu d'eau, que l'eau stagne et qu'il fasse une pneumonie. Ça, vous avez le temps de le voir, la pneumonie. Il va avoir de la fièvre, il va pas aller bien. Vous allez aller chez le médecin, on va le mettre sous antibiotiques et tout ira mieux.
Et alors, se mouiller la nuque avant de rentrer dans l'eau, ça, c'est pour éviter les hydrocutions.
Exactement, parce que vous allez adapter votre système vasculaire, ce qui va permettre de correctement perfuser le cerveau et ce qui va permettre de ne pas avoir un changement brutal du diamètre des vaisseaux, ce qui va justement avoir ce changement trop rapide de la perfusion cérébrale.
Merci beaucoup, docteur. Et on rappelle évidemment sans cesse les règles de prudence, de vigilance avec cette nouvelle vague de chaleur qui arrive sur le pays. On fait attention, on se baigne dans les espaces autorisés, uniquement surveiller aussi, c'est important. Merci beaucoup, il est 6h28.
Et c'est l'heure de jouer sur RMC, RMC Story. Bonjour Stéphane.
Bonjour la team, RMC.
Salut Stéphane, comment ça va ce matin?
Ah ça, je suis hyper content de vous avoir. C'est la première fois que je joue et... c'est le top, je vous écoute tous les matins...
Eh ben continuez Stéphane, c'est un bon réflexe de se réveiller avec RMC Story.
Surtout
que
vous allez gagner des vacances là Stéphane, je crois.
Exactement, mais pour ça faut d'abord nous dire quel est le mot caché du jour Stéphane.
Vétiller.
Bravo.
Parfait, bravo
Stéphane. Ça veut dire chipoter, chicaner.
Oui.
J'aime bien ce mot, moi je pense que je vais le réutiliser.
Ouais, vous pourrez briller à la machine à café comme ça.
Bon Stéphane, vous allez partir en vacances avec qui?
On est une famille recomposée avec mon fils qui est militaire et ma chérie qui a un fils également et voilà quoi.
Ah bah c'est parfait parce que les vacances en camping.
Je peux leur envoyer un petit bisou à tous.
Ah bah
à mes
bien
parents,
sûr.
À mon fils et à ma chérie Nathalie.
Eh bah voilà, on embrasse toute la petite famille de Stéphane en Gironde. Merci beaucoup Stéphane, passez une très belle journée.
RMC 6h30.
5-7, le Morning RMC.
Et à 6h30, le journaliste avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, la chaleur et les incendies.
Réunion de crise du gouvernement encore cet après-midi depuis Marseille. Cette fois consacrée, oui, à la chaleur alors que des incendies font rage dans tout le sud de la France, les plus importants en ce moment dans l'Hérault, l'Aude et les Bouches-du-Rhône. On va parler dans le journal d'un des plus gros porte-conteneurs du monde qui sera inauguré aujourd'hui dans le port du Havre et des qualifications des États-Unis, de la Belgique et de l'Angleterre cette nuit à la Coupe du Monde.
Mais d'abord, ce coup de tonnerre dans le milieu de la pétanque.
Oui, on a appris hier dans la soirée que 9 personnes avaient été interpellées dans le Var et en Gironde pour des soupçons de matchs truqués lors d'un tournoi de pétanque. C'est ce que nous dit le journal Le Parisien. Et parmi ces 9 personnes figurent des noms très connus du milieu. Dylan Rocher, Henri Lacroix, ceux qui jouent les connaissent forcément. Constance Bostoen pour RMC, on parle là d'un tournoi remontant à l'année dernière.
Le 4 septembre dernier, pendant les Masters de pétanque, l'une des compétitions les plus relevées au monde, l'équipe ultra favorite s'incline en quart de finale, 13-4, contre une autre bien moins expérimentée. La défaite est inattendue, elle fait le bonheur de quelques parieurs qui avaient misé gros, trop gros pour ce type de compétition. L'autorité nationale des jeux est aussitôt alertée et découvre que ces parieurs sont en fait des proches des boulistes qui viennent de perdre le match. Grâce à ces mises, ils auraient dû empocher 60 000 euros. Mais une enquête est ouverte et ce mardi matin, 9 personnes ont été placées en garde à vue. Parmi elles, 4 joueurs membres de l'équipe de France. Toutes ont été entendues et sont soupçonnées d'escroquerie en bande organisée et corruption active et passive.
RMC 6h31, il n'y a plus aucun département en alerte orange ce matin.
L'alerte est levée dans les quatre qu'il était en Corse, dans le sud-est et en Corse. Mais alors ça ne devrait pas durer très longtemps puisque Météo France évoque, vous le savez, une nouvelle vague de chaleur à partir de là, ce week-end, celui qui arrive. Et Louis Salé pour RMC, vous nous dites qu'elle est redoutée par les soignants et rintée déjà par les canicules de mai et de juin.
La semaine dernière, dans le service de Cynthia, infirmière à l'hôpital de Chartres, il n'y avait que 3 ventilateurs pour 29 patients.
On les reprenait pour les déplacer dans d'autres chambres quand on estimait, entre guillemets, que c'était assez pour le patient. C'est quand même inhumain, quoi. On se demande pourquoi ce patient-là plutôt que l'autre. C'est choquant et c'est des choix qui sont très compliqués à supporter, forcément.
Des climatiseurs mobiles ont depuis été commandés, mais une nouvelle canicule risque de fragiliser les équipes, craint Frédéric Adnet, chef du de Paris.
Nous, on a aussi besoin de récupérer nos forces. Alors, une semaine, ça me paraît trop court. Le personnel est fatigué, extrêmement stressé, parce qu'on a vécu quand même beaucoup de décès, d'arrêts cardiaques.
Les hôpitaux peuvent, si besoin, faire appel à des étudiants, des soignants intérimaires, mais pas question de rappeler le personnel en vacances. Didier Guidoni dirige l'hôpital de Viersen.
Les congés d'été pour les soignants, on ne les remet pas en cause. Il faut qu'ils puissent en profiter et on est vigilants.
Il espère aussi que le bâtiment tiendra le choc d'une nouvelle vague de chaleur. La semaine dernière, la climatisation des blocs opératoires de son hôpital est tombé en panne.
Alors le Premier ministre Sébastien Lecornu dirigera cet après-midi une nouvelle cellule de crise interministérielle consacrée justement à ces épisodes de chaleur à répétition. Ce sera depuis Marseille, cette cellule. Le Sud qui est touché tient par plusieurs incendies depuis hier. Le plus important à la frontière entre l'Aude et l'Hérault, dans ce qu'on appelle le Minervois. 800 hectares de pinèdes sont partis en fumée depuis hier. Le feu n'est pas maîtrisé. Il y en a deux autres, des incendies dans les Bouches-du-Rhône. Au moins 200 hectares partis en fumée à Lançon de Provence. Le feu qui s'est réactivé dans la nuit, là, selon les toutes dernières infos. Et une cinquantaine à Rognac. Le feu est fixé ce matin, nous disent les pompiers. Mais ça fait peur quand même, nous raconte cet habitant.
Vous voyez la fumée. Et là, je me suis décidé à venir voir parce que j'ai l'impression que c'est pas fini, quoi. Je vois que ça brûle toujours. Donc, ça m'inquiète beaucoup avec le vent qu'il y a. Plus loin, il y a Berre, là, avec les citernes de gasoil, d'essence. C'est très inquiétant. Ça fait chier parce que, excusez-moi, je parle mal. À chaque fois, c'est volontaire. On sait qu'il y a du vent. Il ne faut pas ni fumer, ni voilà.
Et forte odeur de fumée ressentie jusqu'à Marseille. Tiens, les autorités avaient prévenu, vous savez, avec 6 départements au niveau le plus élevé pour le risque d'incendie. Dans le Var, les flammes ont pris hier après-midi dans un quartier résidentiel à Fréjus, provoquant l'évacuation de 6 campings et de plus de 2000 personnes.
Il est 6h34 et c'est l'attraction depuis le début de la semaine dans le port du Havre où des curieux viennent apercevoir un des plus gros porte-conteneurs du monde.
Oui, et le plus gros de France, le premier de cette taille d'ailleurs au monde à être propulsé au GNL, qui sera donc inauguré aujourd'hui au Havre. Il s'appelle le Notre-Dame, il appartient à la compagnie CMA-CGM, également propriétaire de la radio RMC. Rachel Sadodine, pour RMC, on parle vraiment d'un géant des mers.
400 mètres de long, 62 de large, d'une hauteur de 75 mètres, le Notre-Dame peut transporter jusqu'à 24 212 conteneurs. Et c'est d'ailleurs chargé à bloc qu'il est arrivé lundi soir dans le port du Havre en provenance de Chine. Ce géant des mers a été conçu pour les liaisons Extrême-Asie-Europe. Paul Touré est le directeur de l'Institut supérieur de l'économie maritime.
On a spécialisé les très gros porte-conteneurs sur ce trafic-là parce qu'en fait, on a des volumes relativement importants. Il faut voir qu'entre l'Asie et l'Europe, il y a à peu près 16 à 17 millions de conteneurs par an.
Et plus un navire est gros, plus il est rentable.
Vous faites vraiment beaucoup d'économies à avoir un très grand navire parce que vous consommez finalement peu d'énergie aux conteneurs transportés.
Premier d'une série de 10 porte-conteneurs qui rejoindront la flotte de CMA-CGM d'ici 2 ans. Tous font la même taille et ça semble compliqué de faire plus grand.
Là, on est arrivé à la limite pour les porte-conteneurs. On ne peut pas les faire plus profonds parce qu'il faut qu'ils accèdent à un certain nombre de ports. Et on ne peut pas les faire plus larges parce que les portiques seraient de plus en plus grands. Il ne faut pas que les engins de mobilité dépassent la taille des infrastructures.
Avec à son bord une trentaine de marins, le Notre-Dame, navire sous pavillon français, quittera le port du Havre samedi.
De gros poissons ont failli passer à la trappe à la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les gros poissons, c'est la Belgique et l'Angleterre. C'était très chaud pour la Belgique.
Tintin.
Pour la Belgique qui a éliminé le Sénégal 3-2, mais ça s'est joué sur un pénalty au bout de la prolongation pour les Belges. C'était très chaud aussi pour l'Angleterre qui s'en est remise à un doublé d'Harry Kane dans le dernier quart d'heure pour éliminer 2-1 la République démocratique du Congo.
On a dû se battre pour arracher la victoire. Leur gardien a réalisé des arrêts incroyables. Je suis fier des gars et de moi-même aussi. Il suffit de garder la foi, de continuer à envoyer le ballon dans les bonnes zones. Et vous savez que l'un d'entre nous finira par vivre son moment de gloire. Heureusement pour moi, ça a été le cas.
Voilà, Harry Kane, sauveur des Anglais hier soir. Qualification plus tranquille cette nuit pour les États-Unis, 2-0 contre la Bosnie avec un but, mais aussi un carton rouge pour son attaquant Follarine Balogun.
Le quintet le jeudi, Quentin, c'est à l'hippodrome de Paris-Longchamp.
20h15, ce quintet, on parle pas de poissons mais de chevaux. Le 8, le 9, les pronostics de la Dream Team. Le 8 en favori, Mélusine Dioulé. Le 9 en outsider, Comet Shop. Le 8, le 9.
Je vous ai déjà dit que mon signe astrologique c'était poisson.
Ah, je veux
pas. Non, mais voilà, la boucle est bouclée. Non, mais si vous étiez là il y a deux jours, et vous étiez là, la boucle est bouclée. Il est 6h37. Merci beaucoup, Quentin Vinet. Et on va tout de suite accueillir Yannick au 32-16. Salut Yannick.
Bonjour.
Salut Yannick. Vous vouliez réagir à cette information, ce chiffre qu'on vous dévoile sur RMC ce matin. Quasiment 80% des parents ont peur pour leurs enfants, jeunes conducteurs qui vont prendre la route là. Au moment des vacances, globalement, alors il y a plusieurs chiffres dans ce sondage, mais globalement, les parents sont plutôt stressés au moment de voir leurs enfants partir en vacances. Est-ce que c'est votre cas, Yannick?
Moi, j'ai peur. Oui, quand mes enfants ne partent pas en vacances, donc ça va. Mmh. Mais par contre,
Yannick, vous êtes sur haut-parleur ou pas?
Non, je suis dans une pièce qui a un petit peu de résonance.
Ah, oui, c'est pour ça.
Voilà, désolé.
Du coup, ils partent pas en vacances, mais vous stressez un peu quand même quand ils prennent la voiture?
Oui, en fait, c'est surtout en boîte de nuit. Moi, en boîte de nuit, quand ils vont en boîte de nuit, par exemple, je les amène et je vais les rechercher.
Ah oui, ils ont quel âge, vos enfants, Yannick?
19 et 22 ans.
Ok. Et là, est-ce qu'ils prévoient des départs en vacances avec leurs copains cet été, non?
Non, peut-être des week-ends comme ça, mais ils prennent pas les voitures, ils vont en train ou un truc comme ça.
Parce qu'ils préfèrent ou parce que vous leur demandez de pas prendre la voiture?
Non, parce qu'ils préfèrent.
Ils préfèrent.
Ils préfèrent, parce qu'après, en plus, on est plus libre, je veux dire, bon, là où c'est qu'ils vont, c'est, moi, à côté de chez moi, il y aurait Delmar, des trucs comme ça, c'est que des boîtes de nuit. Donc, ils sont plus tranquilles après, ils ont pas besoin de... Ils n'ont pas besoin de la voiture.
Et on entend votre inquiétude, Yannick, comme 8 parents sur 10, quand leurs enfants jeunes permis prennent le volant, évidemment. Inquiétude que l'on comprend. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir composé le 32-16 ce matin. Il est 6h39.
On va parler de ce coup de tonnerre pour les gamers. Sony, la maison mère de PlayStation, a annoncé hier mettre fin au jeu physique pour ses consoles. Dès janvier 2028, fini les disques pour jouer. Il faudra directement télécharger les jeux.
Bonjour Julien Chiez.
Bonjour.
Vous êtes créateur de contenu, spécialiste du jeu vidéo. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les joueurs? Est-ce que le marché de l'occasion a encore un avenir? Vous nous répondez dans quelques minutes.
Et puis elle est là, la bande du morning, évidemment. En studio, la causerie, Virginie Fulpin.
La France, c'est le nouveau Brésil.
Et c'est déjà demain, Anthony Morel.
L'innovation qui sauve des vies, des airbags de nouvelle génération qui vont bientôt débarquer.
Ah bah tiens, ça a un lien avec notre info RMC. Merci beaucoup, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
5h-7h.
5-7, le morning RMC.
Il est 6h43 sur RMC et RMC Story. Et chez Sony, eh bien c'est game over pour le jeu vidéo physique. Le géant japonais a annoncé hier qu'à partir de janvier 2028, il ne produira plus de disques pour les nouveaux jeux PlayStation en réponse au changement de tendance dans les préférences des consommateurs. Fin de citation. Alors pour le dire autrement, il faudra passer par la plateforme dématérialisée de Sony ou acheter un code de téléchargement auprès des revendeurs.
Bonjour Julien Chiez.
Bonjour.
Créateur de contenu, spécialiste du jeu vidéo, merci d'être avec nous ce matin. Déjà, est-ce que ça vous a surpris cette annonce de Sony hier?
Alors malheureusement, c'est pas très surprenant. En revanche, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un véritable coup de tonnerre et il y a des millions de joueurs aujourd'hui qui sont particulièrement en colère.
Pourquoi? Expliquez-nous.
Alors, c'est pas surprenant parce que très clairement, la part du dématérialisé aujourd'hui est devenue de plus en plus importante. Chez PlayStation aujourd'hui, dans le monde, ça représente 78% des achats, donc ça devient largement majoritaire. En sachant quand même qu'en France, on a une véritable spécificité, hein, c'est un peu comme le petit village gaulois, le physique tenait beaucoup mieux que dans le reste du monde. Malheureusement, cette tendance étant aussi importante, Sony a tranché.
En fait, c'était inévitable, c'est ce que vous nous dites ce matin.
Inévitable, je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, on y allait. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans l'absolu? Ça veut dire quand même que si on passe au dématérialisé et qu'il n'y a plus de format physique réel, en fait, on pourra tout simplement plus avoir de jeux d'occasion, puisque le dématérialisé, en fait, on ne peut pas le revendre dans l'absolu. Ça veut dire aussi que prêter son jeu sera un peu plus complexe, parce que certes, il est possible de partager son compte, mais c'est beaucoup moins simple que de prendre une boîte et de le passer à son ami ou à un membre de la famille. Et puis aussi, ça veut dire que si un jour, vous avez un problème avec votre compte PSN, là en l'occurrence chez PlayStation, bah potentiellement vous pouvez perdre l'intégralité de l'accès de vos jeux et donc de vos achats, ce qui soulève quand même d'évidentes questions.
Parce qu'on les achète pas à vie quand on les achète sur cette plateforme ?
Absolument pas. Si votre compte est radié, et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, eh bien en fait vous avez tout simplement tout perdu. Si je dis n'importe quoi, mais vous avez une centaine de jeux, bah vous n'y avez tout simplement plus accès. Si par exemple bah vous avez plus internet et qu'il faut se connecter pour activer son compte, eh bah vous n'y aviez tout simplement plus accès, alors que évidemment que le format physique garde une spécificité qui est que bah quand vous l'avez ça, dans l'absolu.
Ça pose
donc
de grosses questions.
Forcément les joueurs sont pas très contents.
Anthony Morel.
Bah oui, bah moi en tant que joueur comme Julien, non mais c'est un scandale absolu. C'est moi j'ai grandi avec l'idée que on achetait un jeu et qu'on le possédait à vie, c'est-à-dire j'ai encore des jeux que j'ai achetés dans les années 90 et que je garde précieusement parce que en plus il y a le côté collection qu'on a avec les boîtes physiques qu'on n'a évidemment plus avec le dématérialisé. Et comme le disait très justement Julien, le problème c'est qu'on passe d'un mode de la possession, vous faites ce que vous voulez avec votre jeu, vous pouvez le revendre, vous pouvez le prêter, vous pouvez faire ce que vous voulez, à un mode où vous avez une licence d'utilisation qui est révocable à merci par l'éditeur. Et ça, c'est quand même dingue, d'autant que les prix ne baissent pas. C'est ça qui est complètement fou, c'est qu'on pourrait se dire, bon, ok, on passe à un mode de licence, mais le jeu, on va le payer deux ou trois fois moins cher. C'est pas du tout ce qu'on voit. Hein. C'est pas du tout ce qu'on voit. Les jeux sont plus chers en réalité qu'ils ne l'étaient avant.
Mais Julien Chiez, j'ai une question pour vous. La décision de Sony, c'est aussi pour faire des économies ?
Alors, pour eux, peut-être. Pour les joueurs, effectivement,
pour nous,
j'ai
non.
du mal à le voir. Parce que très clairement, pour les joueurs, aujourd'hui, souvent, ce qu'on constate, c'est qu'en boutique, au lancement, par exemple, d'un gros jeu, il y a des réductions. C'est une autre spécificité française, mais souvent, les grandes enseignes, que ce soit Carrefour, Auchan, Leclerc et consorts, font des prix très agressifs, initialement, alors que on retrouve pas ce genre de promotion sur les boutiques dématérialisées. L'autre point aussi, et je pense que ce sera quelque chose d'assez central hein, dans les mois et années à venir, c'est qu'aujourd'hui, bah, il y a tout simplement un monopole, en fait, de la boutique PlayStation. Ça veut dire que sur PlayStation, vous n'avez que le PlayStation Store. Alors que en physique, bah vous avez une infinité de boutiques. Je pense justement aussi à ces boutiques qui forcément ne peuvent pas faire autrement que de voir cette nouvelle
pour elle, c'est la fin, là.
Comme un clou supplémentaire dans leur cercueil, hein, très clairement.
Et là, c'est une annonce de Sony, mais est-ce que ça veut dire que les autres fabricants de jeux vidéo, Nintendo, etc., vont suivre et il faut s'attendre à la même, enfin finalement, que d'ici quelques années, il n'y ait plus aucun jeu physique de quelle que soit la marque finalement.
Eh ben, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que le monde du jeu vidéo, il est multiple. Sur PC, bon, bah, c'est acté depuis maintenant des décennies, il n'y a plus de jeux physiques. Sur mobile, qui est un énorme marché, il n'y a jamais eu de jeux physiques. Et effectivement, il restait encore, c'est les consoles. Bon, PlayStation bascule aujourd'hui. On sent très bien que Xbox risque de suivre, puisque c'est quelque chose qu'ils avaient déjà un petit peu évoqué. Reste donc, et vous avez complètement raison, hein, la question qui est posée avec Nintendo, qui doucement mais sûrement commençait à y aller avec ce qu'on appelait les Game Key Cards, qui était un petit peu une début de proposition de dématérialisé et physique. Bon, bah, j'ai envie de dire que Nintendo a une véritable carte à jouer hein, si eux restaient un peu le dernier des Mohicans à continuer à proposer du physique.
Pour conclure, Julien Chiez, est-ce qu'on peut espérer, un peu comme pour les vinyles, un retour du disque physique dans quelques années ? Est-ce que le rétropédalage est encore possible ou pas ?
Bah, je crois qu'on est dans un monde où tout est possible. Il ne faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, ça a l'air d'être quand même sacrément mal embarqué. Et contrairement justement au monde de la musique, bah, c'est ce que je vous disais, c'est comme les consoliers sont propriétaires en fait de leurs jeux, etc. Si quelqu'un décidait de faire du physique, c'est bien, mais s'il n'y a plus de lecteur de disques dans les consoles, bah, ça ne
sert à rien. Ouais.
Donc c'est une vaste question.
Merci beaucoup Julien Chiez d'avoir été avec nous ce matin sur RMC, RMC Story. Je rappelle que vous êtes créateur de contenu, spécialiste du jeu vidéo. Merci beaucoup. 6h49 sur RMC, la bande est là, mais avant de retrouver Virginie, Anthony, le rappel des titres, Élise.
Et le feu dans le sud de la France avec trois gros incendies hein, depuis hier, l'un entre l'Aude et l'Hérault qui a déjà ravagé 800 hectares de pinèdes, les deux autres dans les Bouches du Rhône. La politique et ce coup de poignard à droite avec Laurent Wauquiez qui tend la main à Édouard Philippe pour la présidentielle plutôt qu'à Bruno Retailleau. Et puis les États-Unis, la Belgique et l'Angleterre qualifiés pour les huitièmes de finale à la Coupe du Monde. C'est chaud pour les Belges et les Anglais.
7h-10 sur RMC, RMC Story. La petite musique qui vous indique que toute la bande est là. Évidemment, Virginie Fulpin, Géraldine Demory, Anthony Morel autour de nous. On va commencer avec la causerie de Virginie. Virginie, les Bleus sont de retour à Boston. Demain, direction Philadelphie pour affronter le Paraguay. 8e de finale de la Coupe du Monde. Ce sera samedi soir, évidemment, sur RMC. Cette équipe de France, c'est le nouveau Brésil, Virginie ?
C'est quand même déroutant parfois le football. Didier Deschamps, il est sélectionneur des Bleus depuis 2012 et pendant 14 ans, on s'est tous plaints du jeu ennuyeux de l'équipe de France. Le mantra du sélectionneur, ça a toujours été la solidité défensive. Alors on a baillé souvent devant les matchs des Bleus. Oui, c'était moche, mais ça gagnait. Qu'est-ce que vous voulez dire quand une équipe remporte la Coupe du Monde 2018 et est en finale de celle de 2022? On célébrait les résultats et on oubliait le contenu. Et voilà pour sa dernière danse, son dernier mondial, Didier Deschamps régale la terre entière avec son équipe virevoltante. Alors évidemment, il y a les joueurs, Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola. Mais ce qui fait que cela nous enchante, c'est que le sélectionneur leur laisse une liberté inédite. J'aurais pas cru dire ça un jour, mais Didier Deschamps est devenu le chantre du beau jeu.
Et le monde entier s'extasie devant la qualité du jeu de cette équipe de France.
C'est Rio Ferdinand, l'ancien défenseur anglais, qui l'a dit le premier. Les Bleus, c'est le nouveau Brésil. Pas n'importe quel Brésil. Le Brésil version Joga Bonito, vous savez, le beau jeu. La Seleção de 1970 avec Pelé, l'équipe qui a élevé le football au rang d'art. Ou encore le Brésil de 2002, celui du merveilleux trio Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. C'est à ce trio qu'on compare Olise, Mbappé, Dembélé et leur façon de se trouver les yeux fermés. D'ailleurs, Ronaldo l'a dit lui-même, Mbappé lui rappelle le joueur qu'il était à ce moment-là. Je connais peu de comparaisons aussi flatteuses. Le Brésil de 1970 et 2002, c'est celui qui nous faisait attendre les Coupes du Monde avec impatience. On savait que la magie allait opérer, que les matchs allaient se transformer en ballet. Et ce qu'on vit aujourd'hui avec cette équipe de France, c'est la même chose, beaucoup, beaucoup plus qu'avec le Brésil d'Ancelotti.
Oui, tout à fait. Cette équipe de France, elle apporte aussi de la joie, Virginie.
Alors, je ne sais pas si les Bleus vont la gagner, cette Coupe du Monde. Ce qui est sûr, c'est qu'ils nous offrent ce petit supplément d'âme qui fait toute la différence. Tout coule sur le terrain, tout semble facile. Et même après d'une heure du matin, on arrive encore à pousser des O et des A devant le retourné acrobatique d'Olise, le sens du but de Mbappé ou encore le triplé de Dembélé. On voit une équipe qui a l'air en fait insouciante. On dirait des mômes qui ont pris un ballon, qui jouent à... On dirait qu'on est à la Coupe du Monde en bas de chez eux par un après-midi d'été ensoleillé. Ben oui, sauf qu'on est vraiment à la Coupe du Monde. Je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe qui réveillait autant nos âmes d'enfants.
Qu'est-ce que ça fait du bien.
Bah ouais, c'est ça, ça fait un bien fou.
Merci beaucoup Virginie, il est 6h52 et c'est l'heure de C'est déjà demain avec Anthony Morel. Anthony, on en parle depuis tôt ce matin, les premiers départs en vacances s'approchent à grands pas, peut-être dès demain. Et tu nous présentes ce matin des innovations au service de la sécurité routière, notamment une nouvelle génération d'airbags qui ne se contente plus d'amortir le choc, mais qui enveloppe les passagers pour mieux les protéger, c'est génial.
C'est ça, c'est en fait un airbag révolutionnaire qui va vous faire un gros câlin en cas d'accident. Je peux pas le résumer mieux que ça. C'est exactement ça. Parce que l'airbag, c'est génial. Évidemment, ça a sauvé plein de vies en plusieurs décennies. On connaît le principe, le gros coussin d'air qui se gonfle en cas de choc et qui va venir empêcher votre tête de taper le volant ou les appuis-têtes. C'est très très bien, mais c'est pas parfait parce qu'effectivement, il y a des problèmes de cou du lapin, il y a des fractures, il y a des brûlures au visage également. Et là, l'idée qu'a eu ce constructeur, qui est un constructeur chinois, qui teste ça actuellement, c'est un airbag cocon, c'est-à-dire un airbag qui, en cas de choc, ne va pas se contenter de gonfler un coussin devant vous, mais va venir vous emmitoufler dans une sorte de bulle. Donc vous avez en fait un gros coussin qui va se gonfler au niveau du thorax, de la tête et du cou, comme une sorte d'armure souffle, et vous allez être complètement coincé, si vous voulez, vous ne bougez absolument plus, mais du coup, il n'y a plus de choc, il n'y a plus de coup du lapin, vous êtes complètement bloqué, si vous
même
voulez.
Même pour les éclats de verre, si le pare-brise cède, par exemple, ça nous protège.
Ça vous protège aussi, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors, ils ont pensé à ça parce que les futures générations de voitures, on va de plus en plus aller vers des voitures qui se conduisent toutes seules, voitures autonomes, il y a le mode autonome de Tesla, il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine-là, et donc on va avoir des voitures où on va pouvoir aussi faire pivoter les sièges, on va pouvoir se retourner vers les passagers pour discuter avec eux. Bah oui, on n'aura plus besoin de conduire, donc il faudra bien s'en occuper évidemment. Et donc il faut avoir des airbags de nouvelle génération qui vont en fait s'adapter à la position dans laquelle on se trouve et qui vont pouvoir nous protéger quelle que soit la situation. Et on va aussi pouvoir adapter ça à des deux roues. Alors ça, c'est incroyable. Oh. Vous avez aussi des innovations qui vont permettre, quand vous êtes à moto ou à scooter, eh bien de se gonfler de la même manière et de venir envelopper le torse et la tête du pilote. Et là encore, ça pourrait potentiellement sauver des vies.
Anthony, il y a un autre point faible niveau sécurité. sécurité dans les voitures. Et là, tu vas me faire un petit peu peur. On parle du siège bébé.
Ouais.
Là aussi, on commence à voir arriver des airbags spéciaux.
Oui, exactement. Alors, le gros problème des airbags pour les enfants, c'est que la morphologie des enfants est pas faite pour ça. C'est fragile, un enfant, évidemment. Ils ont pas la maturité osseuse pour absorber ce genre de choc. Et donc là, on a des innovations géniales qui sont en train d'arriver. Ce sont des airbags de nouvelle génération qui sont adaptés au siège bébé et au siège enfant avec deux particularités. D'abord, ils vont se dégonfler immédiatement après avoir amorti le choc pour éviter les problèmes d'étouffement. Et puis ensuite, à l'intérieur, vous avez non pas de l'air chaud, mais de l'air froid. Ça évite les risques de brûlure. Alors, c'est des technologies qui coûtent encore très cher. C'est le problème, c'est des Français les premiers à avoir travaillé sur les airbags pour siège enfant. C'était il y a quelques années. C'était relativement cher. On peut espérer que ça se démocratise dans les années qui viennent parce que là encore, ce sont des vies qui pourraient être sauvées.
Merci beaucoup, Anthony Morel, pour ce point sécurité routière qui, je pense, va intéresser Mathieu Béliard.
Bonjour, Mathieu. Le morning.
Salut, comment ça va?
Ça va bien.
Salut, Martin. L'équipe, tout s'est bien passé?
Oui, très bien.
Bon, je vous ai écouté attentivement. On va parler de la route aussi, effectivement, et de la peur des parents alors que leurs enfants vont prendre la route cet été. On parle des jeunes conducteurs, et ça, c'est une exclusivité RMC. C'est une étude pour Direct Assurance. 8 parents sur 10 qui redoutent un accident mortel de leurs enfants pendant les vacances. Vitesse, alcool, stupéfiant, le téléphone au volant. Il faut dire que le taux de mortalité des 18-24 ans est deux fois plus élevé que la moyenne en été. Alors on en parle, vous partagez cette inquiétude avec nous au 32-16 ce matin. Apolline Matin dans quelques toutes petites secondes. À tout de suite.
5-7. Le Morning RMC.